chapitre 40.
C'est bien la plus curieuse paire d'amoureux que j'ai jamais vue, disait un des hôtes d'Ashbourne, une jeune femme qui, ayant été plus d'une fois fiancée avant d'aboutir au mariage, avait droit de se considérer comme une autorité en la matière. On ne les voit jamais ensemble. Ils sont cousins, répondait sa compagne. Que pouvez-vous attendre de deux cousins qui se font la cour? Ce doit être la chose la plus ennuyeuse du monde. Cousin ou non, c'est toujours ennuyeux. À moins que l'opposition des parents ou quelque autre cause extraordinaire ne vienne animer un peu la situation, dit une autre personne. Cette conversation avait lieu après le déjeuner, entre quelques jeunes femmes qui, pour tuer le temps, papotaient dans la salle de billard en taquinant les billes. Lady Mabel est d'ailleurs une de ces jeunes filles dont un homme ne peut pas devenir amoureux fou. Elle est très jolie, très élégante, elle est parfaite en tout, mais elle a si bonne opinion d'elle-même qu'il semble impossible d'y rien ajouter en l'admirant. Il n'en est pas moins vrai que je sais dans la maison quelqu'un qui l'admire beaucoup, affirma la jeune femme qui avait parlé la première. Beaucoup plus même que je ne l'approuverais si j'étais Monsieur Vaudrey. Je crois que je devine, commença une autre amie qui s'essayait au billard. Quel coup ridicule ! S'écria-t-elle brusquement. Et justement, je comptais faire un carambolage. Elle rompait les chiens parce qu'elle venait d'apercevoir la personne intéressée dans cet amical entretien. Lady Mabel entrait au moment même, suivie de Lord Mallow, non pas pour jouer au billard, comme cette frivole jeunesse qui l'entourait. Il y avait au fond de la salle de billard des rayons qui avaient accueilli le trop-plein de la bibliothèque, et Mabel venait y chercher un traité sur les antiquités de l'Irlande. Elle avait avec Lord Mallow une discussion sur la tour ronde. « Vous avez évidemment raison, » disait l'Irlandais quand elle lui eut montré, triomphante, la page qui confirmait son opinion. « Quelle mémoire merveilleuse ! Quelle femme précieuse vous seriez pour un homme d'État ! À vous seul, vous vaudriez peut-être une demi-douzaine de secrétaires !» Mabel rougit, baissa les yeux et sourit. 3 heures plus tard, Lord Mallow et Lady Mabel se rencontrèrent par hasard dans le jardin. C'était un après-midi étouffant, et Lord Mallow, si actif d'ordinaire et si pétulant, ne s'était jamais senti en aussi paresseuse disposition. « Je ne sais pas ce que j'ai, » disait-il. « Je ne suis bon à rien, et surtout, je n'ai pas le courage d'aller voir les ruines avec tout ce monde insignifiant. » Une caravane était partie, en effet, peu après le déjeuner, pour aller explorer des ruines non loin de là. Et le jeune lord avait refusé de se joindre aux promeneurs, quoique les plus jolis invités du château fussent de la partie. Il était resté sous prétexte de lettres importantes à écrire, et pourtant il n'avait pas encore tracé une ligne. « C'est le temps, probablement, » concluait-il. Il se promenait dans le jardin, ayant abandonné toute idée d'écrire. Une large pelouse descendait de la terrasse. Elle était entourée d'arbres, ombrageant de nombreux bancs. Il trouva Lady Mabel assise sur un de ces bancs, d'où la vue dominait toute la vallée. Dans sa robe de mousseline blanche, ornée de dentelles, elle était d'une fraîcheur qui contrastait délicieusement avec l'aspect torride du paysage brûlé par le soleil. Mais elle ne paraissait pas heureuse. Ses grands yeux rêveurs étaient fixés sans regard sur un livre ouvert sur ses genoux. En s'approchant d'elle sans se faire entendre, Lord Mallow s'aperçut que ses beaux yeux étaient mouillés de larmes. Il est de ces moments dans la vie d'un homme où il n'est plus de discrétion qui tienne. Le cœur parle trop haut. Lord Mallow céda aux impulsions de son cœur et, s'asseyant tout près de la jeune fille, il lui prit la main avec une sympathie si vraie qu'elle oublia de s'en offenser. « Pardonnez-moi d'avoir surpris vos larmes, » dit-il doucement. « Je suis bien sotte, » répondit-elle en rougissant de sentir sa main dans la sienne et en la retirant vivement. « Le Dante a vraiment des passages par trop pathétiques. »« Ah, c'était le Dante !» s'écria Lord Mallow, désappointé. Oui, naturellement. Elle lisait l'histoire de Françoise de Rimini. Le livre semblait s'être ouvert de lui-même sur cet épisode. Lord Mallow se pencha et lut quelques vers à voix basse, lentement, avec une vive émotion. Puis il regarda tendrement Lady Mabel Ashbourne et le splendide panorama qui se déroulait devant eux sous un radieux soleil d'été. La situation était étrange. Seuls tous les deux, dans le jardin où personne ne les voyait, ne pouvaient les entendre. Puis ce livre, une sorte de trait d'union, ce livre qui parlait d'un amour défendu. Ils étaient bien à plaindre, dit Lord Mallow, faisant allusion à ses coupables amours. C'est bien triste, murmura Lady Mabel. Mais, insinua le jeune homme, ils ne sont pas les derniers qui se sont aperçus un peu trop tard qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et que la destinée avait été fatale à leur bonheur. Mabel soupira, reprit le livre des mains du jeune homme et se recula un peu. Lady Mabel n'était pas femme à céder avec une sorte d'émotion nerveuse aux premières sollicitations d'un amour incorrect et non autorisé. C'était parfait d'admirer Françoise de Rimini en se maintenant strictement sur le terrain de l'esthétique, en ne considérant dans la célèbre pécheresse que le type idéal de la femme qui tombe, belle jusque dans sa faute. Cette faute, d'ailleurs, était de si ancienne date, si complètement Moyen-Âge, qu'il était permis d'accorder quelque sympathie à l'infortunée Françoise. Mais il n'était pas probable qu'une jeune fille d'aujourd'hui, la fille d'un duc, suivit l'exemple de cette malheureuse et rompit à l'étourdie de solennels engagements. Aux yeux d'une moraliste aussi pointilleuse que Lady Mabel, les fiançailles formaient un lien à peine moins sacré que le mariage. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir les ruines? Demanda-t-elle à Lord Mallow, en reprenant avec la pleine possession d'elle-même le ton de la conversation mondaine. Parce que je n'étais pas d'humeur à y aller. Ces ruines m'eussent été odieuses. En vérité, Lady Mabel, je suis comme Macbeth, dans un de ces moments où il commençait à être las de tout, même du soleil. Les résultats de la session vous auraient-ils désappointé? Naturellement, est-ce qu'il en a jamais été autrement? Le Parlement ouvre plein de promesses. Il semble qu'un jeune roi vienne de monter sur le trône. Tout le monde va être heureux, toutes les charges seront allégées. Et les germes de toutes les améliorations, enfouies sous terre depuis des siècles, vont enfin croître, fleurir, fructifier. Et la session arrive à son terme. Oh, alors, ce n'est plus cela. On a parlé d'un tas de bonnes choses, on n'en a pas fait une seule. C'était fatal. Mais croyez-moi, Lady Mabel, ce n'est pas encore cette déception-là qui me rend malheureux. Il attendait une interrogation. Sans doute, elle allait lui demander la cause de son chagrin. Mais elle gardait silence. Non, répéta Lord Mallow, c'est autre chose. Pas de réponse encore, et il continua embarrassé comme un acteur qui a manqué sa réplique. Depuis que je vous connais, j'ai été à la fois trop heureux et trop à plaindre. Heureux, indiciblement heureux dans votre société. Malheureux, pour avoir compris que je ne pourrais jamais être pour vous quelque chose de plus que le premier venu pris au hasard dans la foule. Vous avez été pour moi beaucoup plus que cela, dit Mabel avec douceur. Jusque-là, elle s'était tenue en garde contre lui, mais quand elle le vit s'abaisser ainsi devant elle, son cœur fut pris d'une dangereuse compassion, et elle glissa imprudemment sur la pente de l'amabilité. Je n'oublierai jamais, continua-t-elle, votre indulgence pour ces pitoyables vers. Je ne vous permettrai pas d'en parler de la sorte, s'écria Lord Mallow avec indignation. Vous avez subi la destinée commune du génie en prenant l'avance sur votre siècle. Lady Mabel laissa échapper un sourire adorablement résigné. Je n'ai pas la faiblesse de me croire un génie, murmura-t-elle. Mais je me hasarde à espérer que mes pauvres vers seront mieux compris dans quelque 20 ans. Incontestablement, dit Lord Mallow avec conviction. Voyez Wordsworth. De son vivant, il passait auprès de la plupart des lecteurs pour un bon vieux gentleman qui se plaisait à débiter des lieux communs sur les lacs, les montagnes, les jolies petites paysannes. Il fallut 10 ans pour que le monde s'aperçût qu'il avait affaire à un grand poète, à un sublime philosophe. « Et je ne serais pas surpris, » ajouta Lord Mallow avec un air méditatif, « si, après 10 autres années, le public le rejetait dans l'indifférence et l'oubli. » Lady Mabel regarda l'heure à sa montre. « Je ferais bien, je crois, » dit-elle, « d'aller servir le thé à ma mère. »« Ne partez pas encore, » supplia Lord Mallow. « Il n'est que 4 heures et la duchesse ne prend son thé qu'à 5. Consacrez-moi une de vos dernières heures. » Une femme qui va se marier est un peu comme Socrate après la sentence. Ses amis l'entourent, elle est au milieu, douce, souriante, sereine, lumineuse. Mais ils savent qu'elle va leur être enlevée. Ils vont la perdre, oui, la perdre, à peu près aussi complètement que si elle était condamnée à mort. Voilà sur le mariage une vue tout à fait consolante, dit Lady Mabel, toute pâle, et jouant nerveusement avec sa chaîne de montre. C'était la première fois que Lord Mallow lui parlait de l'événement qui se préparait. N'est-ce pas comme la mort ? S'écria-t-il. Ce brusque changement, cette séparation entre de vieux amis. Quand vous serez Lady Mabel Vaudrey, pourrai-je jamais me trouver avec vous comme aujourd'hui ? Vous aurez de nouveaux intérêts, de nouveaux liens vous en serreront. Un jour, je viendrai vous voir au milieu de votre nouvel entourage, et j'aurai l'air d'un étranger. Ma Lady Mabel à moi sera morte et enterrée. » On ne sait combien de temps Lord Mallow aurait continué sur ce ton funèbre, s'il n'avait été interrompu fort à propos par l'arrivée de M. Vaudrey. Le jeune homme ne semblait pas pressé, il ne témoignait aucune impatience. Il marchait d'un pas de flânerie le long des arbustes, au milieu desquels serpentait une allée sinueuse. Et, son pointer favori sur les talons, il s'avançait vers sa fiancée, de l'air tranquille d'un homme qui fait consciencieusement sa cour, dont la destinée est pour jamais scellée, et dont le monde n'attend rien qu'un assentiment complaisant et convenable aux arrangements que d'autres ont réglés pour son compte. Il ne parut nullement déconcerté en trouvant sa fiancée et Lord Mallow assis l'un à côté de l'autre, seuls, dans ce petit coin romantique. Il serra cordialement la main de Lady Mabel et fit à l'Irlandais un signe de tête amical. « Qu'êtes-vous donc devenu ce matin, Roderick ? » demanda Lady Mabel de ce ton un peu grondeur que la plupart des jeunes filles affectent d'ordinaire quand elles causent avec leur amoureux. « Oh, j'ai passé toute la matinée à surveiller les travaux de Briarwood. Ces ouvriers sont d'une maladresse. Je fais quelques légers changements aux écuries d'après des plans à moi, quelques améliorations hygiéniques, et il me faut m'accommoder des ouvriers d'ici, des espèces d'idiots. Il y a des tuyaux à poser, il importe qu'ils s'emboîtent exactement. Si je n'étais pas là, tout irait de travers. » « Ce doit être bien ennuyeux pour vous, » s'exclama Lady Mabel. « Intolérable, » dit Lord Mallow, criant plus fort. « Quoi, à cette heure dorée, quand l'amour saisissant la harpe de la vie en fait puissamment vibrer toutes les cordes, il vous faut consacrer votre matinée à la pose de tuyaux d'égout. Je ne sais rien de plus affligeant. » Lady Mabel eut un petit sourire moqueur, mais son fiancé, imperturbablement calme, n'avait pas l'air de s'en douter. « C'est un ennui, si vous voulez, » dit-il d'une voix insouciante. « Mais j'aime mieux jouer moi-même le rôle de contremaître plutôt que de laisser tout gâter. Je pensais, Mabel, que vous étiez de la partie aux ruines de Wellbrook Abbey. Je sais par cœur le moindre caillou de ces ruines. Non, je me suis donné un après-midi de farniente dans le jardin. Il fait vraiment trop chaud pour monter à cheval ou pour se promener en voiture. » Lady Mabel étouffa un bâillement. Elle n'avait pas bâillé une seule fois pendant sa conversation avec Lord Mallow. Rory en fit autant. Le noble lord allait et venait à côté d'eux comme un lion en cage. Peut-être eût-il été poli de laisser les deux fiancés l'un à l'autre. Ils pouvaient avoir différentes choses à se dire. Mais il ne faisait pas mine de les laisser seuls. il était dans un de ces moments d'humeur sauvage où les convenances, les minuties de l'étiquette ne comptent plus pour rien. Les mains dans les poches, il arpentait le terrain avec une indiscrétion des plus équivoques, ravi au fond du spectacle de ses deux fiancés qui n'avaient rien à se dire et qui, évidemment, eussent voulu être à 100 lieues l'un de l'autre. Voilà ce qui arrive le plus souvent, pensait Lord Mallow, lorsqu'on essaie d'échauffer jusqu'à l'amour passionné une amitié fraternelle entre cousins. Des parents imbéciles se sont mis en tête de marier ces deux êtres, parce qu'ils ont élevé ensemble et parce que la petite fille avait de l'affection pour le petit garçon. Mais je vous demande un peu ce que signifient ces amours d'enfant. Toutes les petites filles ont passé par là. Je vais m'occuper du thé de maman, dit Lady Mabel, comprenant le ridicule de la situation. Venez-vous, Roderick ? Ma mère sera heureuse d'apprendre que vous êtes encore en vie. Au déjeuner, elle s'inquiétait de vous. Je n'aurais pas dû rester si longtemps absent, répondit simplement Monsieur Vaudrey. Si vous pouviez imaginer jusqu'où va la sottise de ces maçons. Avant-hier, j'en ai surpris 5 ou 6 assis sur un mur, les mains dans les poches, fumant leur vieille pipe et, Dieu me pardonne, causant politique. Ils attendaient leurs aides. « Ne vous dérangez pas, messieurs, leur dis-je, rien de tel que de prendre le temps comme il vient. Je vais vous envoyer des journaux et de la bière. C'est, du reste, ce que j'ai fait. Depuis, ils travaillent double. Rien ne sert de les bousculer. » C'est très intéressant comme trait de caractère, dit Lady Mabel avec une nuance d'ironie. Puis j'allais prendre le thé chez la duchesse, demanda humblement Lord Mallow. Certainement, répondit Mabel. Mais ce n'est pas le thé que vous aimez, vous autres hommes. Vous raffolez, bien plus que les femmes, des petits cancans dont il est le prétexte. Je n'en ai jamais entendu un seul au thé de la duchesse, dit Lord Mallow. C'est que nous sommes en retard sur notre siècle. Nous essayons de vivre sans médire de nos voisins. » Tous trois se dirigèrent du côté de la maison, cherchant l'ombre, gardant le silence le plus absolu. La duchesse était installée dans son boudoir. Elle ne paraissait pas souffrir de la chaleur. La pièce était grande, bien aérée, bien fraîche. Milady Dovedale accueillit Lady Mabel avec cet air de ravissement qui lui était habituel quand sa fille apparaissait. Elle l'enveloppait d'un regard d'adoration, comme si, dans sa mousseline des Indes, la jeune poétesse aux allures éthérées eût été une divinité authentique. « J'espère bien, ma chérie, dit-elle d'un ton anxieux, que vous n'êtes pas allée par une chaleur pareille vous fatiguer dans les serres. « Oh non, maman, j'étais dans la pépinière et je lisais, ou plutôt j'essayais de lire. » Car on a terriblement sommeil par ce temps-là. Nous prendrions bien une tasse de thé. Ah, le voilà qui vient. Deux superbes valets de pied apportèrent l'un un service à thé et l'autre un plateau de fruits que Lance eut pris plaisir à peindre. Lady Mabel commença le thé. Roderick se mit à manger une pêche et Lord Mallow, fidèle à sa nationalité, s'assit à côté de la duchesse et lui fit des compliments. « Voilà quelques bagatelles pour vous, dit la bonne mère, en désignant du regard une petite table couverte de petits paquets soigneusement enveloppés et ficelés. « Encore des cadeaux !» murmura languissamment la jeune fille. « J'espère bien au moins qu'on ne m'envoie plus de bijoux. J'en porte si peu et je... »« Et j'en ai tant, allait-elle dire. » Mais elle coupa court à cette remarque dédaigneuse qui aurait pu être taxée d'arrogance et de sotte vanité. Elle continua le thé, indifférente à tous ces petits paquets qui avaient bonne mine pourtant, et un aspect des plus engageants. Depuis son enfance, elle avait été tellement bourrée de cadeaux qu'un bracelet ou un médaillon de plus ou de moins ne lui disait plus rien. Elle prenait en pitié les gens assez fous pour lui offrir à grands frais de pareilles futilités, sans ignorer qu'elle en avait déjà à ne savoir qu'en faire. « Vous n'êtes pas curieuse de voir vos cadeaux ?» demanda Rory, quelque peu étonné de sa froideur et de sa hautaine indifférence. « Après le thé, je les devine assez. Combien de livres d'heures m'a-t-on envoyé, maman ?»« 14, je crois. »« Combien d'albums illustrés par doré ?»« Mrs. Scobell en a envoyé un ce matin. Je crois bien que c'est le 5e. » Et combien de médaillons ? Ma chérie, il me serait impossible de les compter. Le facteur ce matin en a encore apporté 3. Vous le voyez, tous ces cadeaux se ressemblent. Et vous comprenez que je ne sois pas impatiente de défaire ces paquets. Je suis sûre qu'il y a là encore quelques médaillons avec le mot « souvenir » en perles blanches sur un fond d'émail noir. Le cadeau de Lord Mallow était un jaunting car irlandais, le dernier mot de la légèreté, d'une forme parfaite, une voiture si bien suspendue qu'elle pouvait affronter les routes les plus mauvaises. Rory lui avait déjà fait ses cadeaux, aussi Lady Mabel ne craignait de blesser personne par son indifférence à l'égard des petits paquets récemment arrivés. On finit cependant par les ouvrir lorsque le duc revint de sa ferme, fort attristé par la maladie d'un cheval qui lui avait coûté 600 guinées. Absolument accablé par cette calamité, le duc demanda, pour se remonter un peu, un mélange de sherry et d'amère. Ce tonique lui fut apporté par un des valets de pied, un gaillard dont l'aspect pléthorique semblait au moins aussi menaçant que l'état du cheval. Mais quoi, le duc ne l'avait pas payé 600 guinées. Lady Mabel ouvrit les paquets dans l'espoir de distraire son père de l'inquiétude qui l'absorbait. « De qui peut-il venir, celui-là, avec le timbre de Jersey ? » demanda-t-elle toute surprise. « Est-ce que je connais quelqu'un à Jersey ?» Roderick devint écarlate. « Mais non, continuait Mabel. Je ne connais personne à Jersey, j'en suis sûr. On ne va pas à Jersey. Boulogne n'est pas plus discréditée. » « Vous feriez mieux d'ouvrir le paquet, » dit Rory avec un tressaillement dans la voix. « Peut-être vient-il d'un de vos amis, » dit Mabel. Elle brisa l'enveloppe et souleva le couvercle d'une petite boîte en maroquin. « Quelle jolie paire de boucles d'oreilles !» s'écria-t-elle. Chaque boucle était faite d'une seule turquoise, grosse comme un œuf de moineau et d'une exquise pureté. La monture romaine était un chef-d'œuvre d'un goût parfait. « Voilà un bijou que je pardonne, » dit Lady Mabel. « Au moins, ce ne sont pas des boucles d'oreilles comme on en voit à tous les étages. » Rory regardait les pierres bleues avec tristesse. Il les connaissait. Elles allaient si joliment avec les cheveux dorés et le teint blanc de son ami, le plus beau teint qu'il eût jamais vu, le plus beau qu'on pût voir. « Il y a une lettre, » dit Lady Mabel. « Je vais donc connaître le nom de ma mystérieuse amie de Jersey. » Elle lut tout haut. « Les Tourelles, Jersey, 25 juillet. » « Chère Lady Mabel, je ne puis laisser passer le jour de votre mariage sans vous envoyer un petit souvenir de la vieille amie de votre mari. Voulez-vous porter ces boucles d'oreilles de temps en temps et croire qu'elles viennent de quelqu'un qui ne forme que des vœux de bonheur pour la femme de Rory ? Tout à vous, Violette Tempest. Ah, elles viennent de votre amie d'enfance, dit Lady Mabel avec un rire qui n'était pas d'une gaieté bien franche. La jeune fille qui suivait les chasses à cour en habit vert à boutons de cuivre et qui affectait de vous appeler Rory. Ce qu'elle fait encore, du reste, vous le voyez. C'est charmant de sa part de m'envoyer un cadeau de noces. J'aurais dû me rappeler qu'elle était à Jersey. J'ai entendu dire qu'elle y avait été envoyée par ses parents parce qu'elle devenait incorrigible à l'abbaye. « Elle n'est pas incorrigible et n'a pas été envoyée à Jersey, » dit Roderick sèchement. « Elle est partie de son plein gré parce qu'elle ne pouvait plus vivre avec son beau-père. » « C'est une autre explication, mais il me semble que nous voulons tous les deux dire la même chose, » reprit Mabel. « Je n'ai pas besoin du reste de savoir pourquoi elle est à Jersey. » Elle a été très aimable de m'envoyer cette lettre charmante, et quand elle sera revenue, je serai heureuse de la recevoir. » Lord Mallow ne se mêla pas à cet entretien, car le duc l'avait accaparé et lui faisait un récit détaillé des symptômes de maladie observés chez son cheval. La petite société se sépara ensuite, et l'on ne se retrouva ensemble qu'à l'heure du dîner, après le retour des touristes qui ne tarissaient pas sur les ruines, sur les paysans qu'ils avaient rencontrés et sur la naïveté de leurs récits. Naturellement, ils plaignaient fort les bonnes gens qui avaient préféré un après-midi de repos à un laborieux plaisir. Et ils ne se faisaient pas faute de s'enorgueillir d'avoir affronté le plein soleil pour accroître leur main bagage de connaissances archéologiques. Lady Mabel était pâle, et Roderick si visiblement distrait que le bon duc, croyant qu'il était inquiet de son cheval, lui donna l'assurance que l'animal pouvait guérir. Plus tard dans la soirée, Lady Mabel et Lord Mallow, assis dans la serre, causaient politique, tandis que Rory s'était joint à la jeunesse joueuse. La serre était délicieusement fraîche, à peine éclairée par les lampes à demi cachées sous les feuilles de palmier. À travers la porte ouverte, Lady Mabel et son compagnon pouvaient distinguer et l'ombre qui descendait mystérieusement sur les bois et les étoiles qui s'allumaient au ciel. Jamais la palpitante question du Home Rule n'offrit pareil intérêt. Lady Mabel ne rentra pas au salon ce soir-là. Une porte de la serre donnait sur le hall, et tandis que Rory continuait à amuser de son mieux les jeunes gens, sa fiancée se dirigeait du côté du hall, suivie de Lord Mallow. Celui-ci prit un flambeau allumé, et le lui ayant tendu, il demeura un instant devant elle, l'examinant de près avec beaucoup d'attention. La jeune fille, les yeux baissés, paraissait regarder attentivement le tapis de l'escalier. « Est-il positivement trop tard ? » demanda-t-il. « Vous devez le sentir et le comprendre, » répondit-elle. « Mais cela eût été possible ?»« Oui, » murmura-t-elle avec un faible soupir. Elle lui donna son bougeoir et elle monta lentement, sans ajouter un mot, sans lui dire seulement « bonsoir ». Lui la regardait monter, élancée, aérienne, dans sa robe claire élégamment drapée. Cela eût été possible, se disait-il. Puis il prit une autre lumière et monta à son tour. Il n'était pas d'humeur à jouer au billard, ni à fumer, ni à causer, et il se sentait moins disposé que jamais à faire bonne mine à Roderick Vaudrey.